Merci Anne pour effectivement cette question laissée en suspens. Une question laissée en suspens qui permettra peut-être d'introduire une poursuite de la chronologie avec la communication donc de Michele Lodone qui va élargir à la Renaissance la poursuite peut-être de cette résolution de l'identité donnée à cet empereur des derniers temps à travers effectivement non pas le catalogue, mais un aperçu, j'imagine, donc, de cette multitude de prophéties messianiques qui parcourent particulièrement l'Italie de la Renaissance, dont on avait déjà eu un écho hier après-midi. Donc, Michele Lodone, donc, de l'Università dei Ca' Foscari de Venise, il vient, il ne viendra pas, il est bel et bienvenu, prophétie messianique et ville italienne, donc, à la Renaissance. Je vous laisse la parole.
Merci. Donc, l'empereur des derniers temps, les rois de France très chrétiens, les chauves-souris, ou l'étoile d'Occident, c'est-à-dire les rois d'Aragon, et les papes angéliques, ou l'antipape, les deux témoins de l'Apocalypse, Élie et Enoch, etc. Donc, ces sujets messianiques, avec leurs différents usages, sont bien connus aux études sur les prophétismes européens entre Moyen-Âge et époque moderne. Moins d'attention a été donnée à un autre sujet collectif plutôt qu'individuel et topographique, pour ainsi dire, ainsi que personnel, et qui cependant est très important dans plusieurs textes prophétiques, les villes, et les villes italiennes en particulier. Rome, ça va sans dire, mériterait un discours à part. En tant que centre global d'une religion, tout comme Jérusalem et la Mecque, ainsi que d'une idéologie impériale, une idéologie qui amènera Constantinople et Moscou à réclamer les titres des deuxième et troisième Rome. Dans mon intervention, je vais me concentrer sur les prophéties messianiques qui circulèrent au XVe et au XVIe siècle dans deux villes italiennes en particulier, sans rien enlever à la louve des siens, au cheval sauvage d'Arezzo, à la vipère de Milan, etc. Je me limiterai à parler du fleur de lys et du lion ailé, c'est-à-dire de Florence et de Venise. Pendant et depuis la préparation de ma thèse de doctorat, j'ai rencontré dans les bibliothèques italiennes mais aussi à la BNF à Paris et à Londres, et j'ai rencontré, je disais, 10 ans des textes prophétiques, chacun copié parfois dans 10 ans des manuscrits. Et la grande majorité de ces textes, de ces manuscrits, n'a pas encore été étudiée, comme l'a montré à propos des télésphores aussi. Ma recherche est toujours en cours, mais une question s'impose tout de suite. Pourquoi commencer par Florence et Venise? J'essaierai de répondre. Florence et Venise, à la Renaissance, ont été parmi les principaux centres économiques, politiques et culturels de la péninsule. Or, d'un côté, cette centralité et ce dynamisme ont encouragé la formation des mythes identitaires très forts, lié à une identité civique plutôt que nationale. De l'autre côté, dans les deux villes, le débat public a été caractérisé d'une certaine ouverture, sinon liberté, qui permettait à une pluralité d'acteurs d'y accéder pour adapter, défendre ou critiquer ces mythes civiques. Donc, une identité civique forte, ainsi que tisser des mythes, et une large participation au débat public, même si avec quelques différences sur lesquelles on reviendra. Ces deux éléments en particulier expliquent, selon moi, pourquoi à Florence, autant qu'à Venise, circula une multitude de prophéties politiques. Florence, en tant que ville élue ou damnée, magnanime avec les voisins et les soumis, à réveiller de son déclin, allié naturel de la couronne de France. Venise, d'ailleurs, liée à Constantinople et à l'Empire byzantin, avec un rapport ambivalent, basculante entre peur et espoir dans la guerre contre les Turcs, patrie du pasteur angélique qui aurait réformé l'Église. Avant d'aborder ces aspects messianiques qui animent les discours prophétiques à Florence et à Venise, nous devrions peut-être nous demander s'il faut parler d'un messianisme républicain. Un messianisme différent, bien sûr, de celui des grandes monarchies européennes ou de l'Empire, mais différent aussi de celui cultivé dans les seigneuries ou dans les cours italiennes de la même époque, par exemple à Mantoue ou à Ferrare. Pour le moment, nous ne pouvons pas répondre de façon définitive. Les prophéties des cours dans l'Italie de la Renaissance ont été bien étudiées par Gabriele Azzari, mais il manque toujours une recherche sur les textes qui étaient transmis oralement, copiés ou imprimés dans et en dehors des cours. Pour ce qui concerne Florence et Venise, en fait, cette recherche a été commencée. Dans les sillages des observations de Marjorie Reeves sur les anthologies des prophéties, Roberto Rusconi a proposé une comparaison entre des collections prophétiques réalisées à Florence et à Venise. Les conclusions provisoires de Rusconi soulignent l'écart entre la large circulation des prophéties en langue vernaculaire parmi un lectorat laïque et appartenant à une classe moyenne à Florence, et la circulation des prophéties en latin dans un milieu ecclésiastique ou aristocratique à Venise. C'est une remarque valable. Mais avec des nuances. À Venise aussi, il y a des recueils de prophéties en langue vernaculaire, comme les manuscrits italiens 924 de la Bibliothèque Marciana di Venezia, avec texte de Tommasuccio de Foligno, Merlin, etc., en vernaculaire, ou l'italien 9363 de la même Bibliothèque Marciana, autographe de Marin Sanudo, le célèbre chroniqueur, avec des prophéties en vers et en vernaculaire. Mais à bien des égards, les prophéties vernaculaires, pour la plupart en vers, comme je dis, circulèrent à Venise surtout pendant les guerres d'Italie, depuis la fin du XVe siècle, lorsqu'à Florence, il y en a aussi dans les décennies précédentes. Ces décalages chronologiques, à mon avis, posent une question de méthode que j'essaierai d'expliquer bref. La chronologie prise en considération tourne autour d'événements clés qui ne sont pas les mêmes, par exemple les tumultes des Ciompi à Florence et la défaite vénitienne d'Agnadello, ou des conjonctures communes qui, quoi qu'il en soit, ne sont pas perçues avec la même intensité, par exemple la chute de Constantinople, ou la campagne italienne de Charles VIII, ou la réforme encore. D'autre part, il faut que la chronologie prenne en compte non seulement les décalages de l'histoire politique, mais celui aussi de l'histoire sociale et culturelle. La naissance de l'humanisme et la diffusion de l'imprimerie n'ont pas eu la même importance dans les deux villes. En outre, la comparaison des thèmes et des sujets messianiques ne peut pas ignorer les différents types de textes dans lesquels ils apparaissent et la particularité des manuscrits dans lesquels les textes sont copiés. Autrement dit, le but est proposer une histoire non seulement des idées ou des mentalités, mais des textes aussi, de leur matérialité, des milieux dans lesquels ils ont été produits et de leur réception. Je viens à Florence, donc. Cette attention philologique à la concrète production et réception des textes fait défaut aux remarques, à d'autres égards innovantes, de Donald Weinstein sur les mythes de Florence dans son première monographie sur Savonarole du 1970 qui hier a été déjà mentionné. Selon Weinstein, la tradition prophétique florentine n'est qu'une partie du mythe de la grandeur de la ville, conçue comme fille de Rome et comme centre de la Renaissance et du renouvellement de la chrétienté. L'historien américain a eu le grand mérite de soustraire Savonarole aux lectures apologétiques et polémiques et de contextualiser sa figure charismatique dans son temps et dans une société qu'il a reconnue comme telle. Mais on peut comprendre les mythes de Florence seulement à partir de l'histoire des textes dans lesquels il apparaît, et donc à partir de ses usages et de ses références concrètes. D'autre part, une perspective diachronique montre clairement la fluidité et même l'ambiguïté de ces mythes. Les mythes de Florence qu'on vit l'élu trouvent son couronnement avec Savonarola. Avec le prophète de San Marco, les tribulations qui auraient frappé Florence auraient été la preuve de son élection divine. Une fois convertie à la buona vita, Florence serait devenue la nouvelle Jérusalem, liée à Dieu par une nouvelle alliance. Cette idée, à la suite de Savonarole, est répétée par ses disciples les plus extrémistes, comme Pietro Bernardino, le chef de la secte des Ouantes, et d'autres. Il s'agit cependant d'une perspective réconfortante seulement en apparence, parce que la ville élue et la ville damnée, la ville de Dieu et la ville du diable, sont deux faces de la même médaille. À la fin du 1513, dans l'église de Santa Croce à Florence, les frères franciscains Francesco da Montepulciano prêcha sur Matthieu 24, c'est-à-dire sur le discours eschatologique de Jésus sur la ruine du temple de Jérusalem. En faisant référence à l'Apocalypse, le prêcheur souligne que Jérusalem est appelée aussi Sodome. Legge nell'Apocalisse, dove Santo Giovanni la chiama Sodoma e Egitto. E tamen, Gerusalemme non è la città di Sodoma e neanche l'Egitto, ma perché era simile alle vizi loro. E c'est qui cette Sodome sinon Florence, où les vices de la sodomie, le vizio della sodomia è si commun? La réputation de Florentine en tant que sodomite était ancienne et répandue, mais dans les discours de Francesco da Montepulciano, elle fait partie d'une perspective apocalyptique plus générale, selon laquelle la fin du monde est proche et Florence, pour ses innombrables péchés, est condamnée à la destruction totale. Les tendances à l'autodestruction, la manque des Timor Dei, la prédominance des injustes sur le petit nombre des justi, giusti sono due et non vi sono intesi. L'identification de Florence avec Sodome, donc, comme l'a montré Elisa Brilli, est essentiel à la posture prophétique de Dante aussi. Mais la comparaison entre Savonarole et Francesco da Montepulciano montre bien l'ambivalence des idées de damnation et d'élection. Sodome et Jérusalem sont des faces de la même médaille. Dans la lecture prophétique et donc métahistorique de l'histoire de Florence, l'interprétation positive des tribulations comme preuve d'élection et l'interprétation négative des mêmes tribulations comme signe de la colère de Dieu sont séparées par une ligne très mince. Les mythes de Florence, donc. Mais quels étaient les objectifs et les références historiques de son usage prophétique? Je me limite à distinguer trois niveaux qui, évidemment, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Avant tout, la politique antérieure, et en particulier les gouvernements de la ville, comme dans le cas du poème « Antichi amanti della buona e bella ». Attribué à Niccolò d'Auzzano, le leader du parti aristocrate et conservateur, ce texte fut divulgué en 1426 et représente en même temps une invective contre la gente nuova, les parvenus comme les Medici, qui étaient en train de prendre le contrôle du reggimento, et une exhortation à ceux qui aiment depuis longtemps la belle femme endormie à la réveiller, c'est-à-dire une exhortation aux nobles à rétablir l'ordre à Florence. Inversement, ce sont les potenti, les cibles d'un autre poème presque contemporain, « Destati, o fier leone, al mio gran grido ». Ce texte, en tant que prophétie de Santa Brigida, la prophétie de Sainte Brigide, est transmis par pas moins de 36 manuscrits auxquels s'ajoutent au moins 5 éditions imprimées. Il s'agit d'une œuvre pseudo-épigraphique. Elle ne prend pas sa source dans les révélations de Sainte Brigide de Suède, mais fut probablement composée par le poète Jacopo da Montepulciano, incarcéré au Stinche, la prison de Florence, pour avoir essayé de libérer sa ville natale, Montepulciano, de la domination florentine. C'est pourquoi, au-delà de la prédiction de la mort ou de l'exil des potenti, ces textes proposent une sorte de version non impérialiste du mythe de Florence, en insistant sur l'idée que la justice et la modération dans une république doivent prévaloir sur l'avidité des pouvoirs et que Florence aurait dû contrôler son expansion territoriale, mais ben convient qu'elle tourne ai suoi confini, etc. Ainsi, nous sommes entrés dans le deuxième niveau de l'usage prophétique du mythe de Florence, le niveau régional, pour ainsi dire, dans lequel aussi il y a des opinions très différentes et même divergentes. Au milieu du XVIe siècle, par exemple, à Sienne, un auteur anonyme renverse Destati, o fier leone dans une nouvelle prophétie en vers, attribuée encore une fois à Saint Brigitte, qui commence « Svegliati lupa ormai, e coi begigli d'oro darai grave martoro al fier leone ». Sienne avec l'alliance de la France peuvent vaincre contre Florence. Le troisième niveau est celui de la politique internationale. Et à cet égard, il y a un aspect macroscopique et de longue durée à souligner. L'alliance avec la France, à partir de l'affirmation du guelfisme florentin jusqu'à la position philo-impériale de Cosme Ier de Médici, mais son fils Ferdinand Ier récupéra la tradition philo-française. Mais quand même, Florence fut très réceptive au messianisme politique français, comme le montre la prompte traduction des textes clés tels que « Le vademecum in tribulazione » de Jean de Roctayade, après la révolte des Ciompi, ou « Les libellus de Telesforte de Cosenza », qui a été traduit à Florence pendant la première moitié du XVe siècle. Mais les liens entre les mythes de Florence et les mythes messianiques français, pour autant que je sache, est attesté seulement à partir du XVe siècle, quand on trouve l'image de l'heureuse domination des deux fleurs de lys, les grands et les petits, sur toute la chrétienté, dans texte comme la lettre ou prophétie d'Antonio d'Arieti du milieu du XVe siècle. C'est bien connu l'importance du messianisme français pour Savonarole, qui voit Charles VIII comme le nouveau Cyrus, destiné à réformer l'Église, et ses partisans qui parlent de l'unione dei gigli con i gigli. Encore une fois, cependant, il faut souligner l'ambivalence et la fragilité potentielle de ces mythes messianiques. L'espoir de Savonarola, bientôt, devant déception. Et dans un recueil contemporain des prophéties, on lit un sonnet qui déplore le fait que le Magno Rege Christianissimo, Charles VIII, se soit montré un marrano assai sufficientissimo et se moque des faux espoirs des Florentines, des Florentins. E viene e non verrà, egli è pur venuto. Così non fosse mai di qui passato, e il popolo con gran festa l'ha aspettato, ora non vorrebbe averlo mai veduto. C'est surtout dans ce troisième niveau de la politique internationale, pour autant que je sache, qui se développent les discours messianiques vénitiens. À la différence de Florence, à Venise, la prophétie en tant qu'une des options envisageables du débat public ne s'occupe pas beaucoup du gouvernement de la ville et de la domination sur la terre ferme. Au moins au XVe siècle. Au XVIe, les choses changent beaucoup, mais Entre-temps, il y a eu les guerres d'Italie et l'épanouissement de Venise comme l'un des principaux centres européens de l'art de l'imprimerie et d'autres choses encore. Les prophéties imprimées à Venise au XVIe siècle ont été assez étudiées, par exemple par Ottavia Niccoli, et aussi Rosa Salzberg et Massimo Rospoker. Mais ce que je voudrais souligner encore une fois est le décalage chronologique entre l'histoire politique et culturelle de Florence, qui a son apogée au XVe siècle, et de Venise, qui le trouve dans les siècles suivants. Dans les discours prophétiques vénitiens, donc, est surtout la politique internationale ce qui compte. Et à cet égard, si Florence s'adresse à la France, Venise se tourne vers l'Orient, vers Constantinople, avant tout, avec un mélange d'admiration et de crainte, de familiarité et de méfiance. Dans son dernier travail, publié à titre posthume en 1988, et intitulé « Fine di Bisanzio, fine del mondo », Agostino Pertusi a montré comme, après la quatrième croisade, à Venise circulèrent plusieurs prophéties visant à justifier comme partie d'un dessein providentiel les sacs de Constantinople du 1204. Les mêmes prophéties, des remaniements des oracula Leonis, des visiones Danielis et de l'apocalypse du pseudo-méthode, furent mises au jour au XVe siècle, en faisant référence à une deuxième chute de Constantinople, c'est-à-dire la conquête turque de la ville en 1453. Les Vénitiens cherchaient alors une explication de la catastrophe dans des prophéties anciennes, dûment remaniées, mais aussi dans des prophéties nouvelles. Dans une d'elles en particulier, l'ambiguïté du rôle attribué au sultan montre bien l'enchevêtrement des craintes et des espoirs qui caractérisent les attentes messianiques diffusées à cette époque à Venise. Il s'agit d'une prophétie latine en prose, bientôt traduite en italien, et qui compte aussi un remaniement à l'intérieur d'une fausse lettre attribuée au dernier roi chrétien de Jérusalem, et aussi une réécriture en vers qui commence « Sera il turco battezzato », l'empereur turc sera baptisé. La première version fut composée presque certainement entre 1454 et 1556 environ. Et entre ces protagonistes, il y a effectivement les sultans qui, après la conquête de Constantinople, visent à conquérir Rome. Les papes et les Vénitiens les vainquent dans une grande bataille navale, mais ils retournent avec une plus grande armée et cette fois ils gagnent, grâce à l'aide aussi d'un empereur schismatique. Ils saccagent Rome, ils détruisent presque complètement Venise, sauvés par un saint homme qui converte l'empereur turc. À ce point-là, les saints vénitiens sont élus papes et réforme profondément l'Église, en pauvreté, etc., comme tradition, lorsque les sultans convertis deviennent empereurs du monde entier. Et ils gouvernent avec justice. Les deux, bien entendu, aimeront et favoriseront Venise. Ameranno ambidue la signoria di Venezia sopra gli altri tutti i signori del mondo e dotarli di grandissimi privilegi, soprattutto a l'égard du commerce, bien sûr. Dans cette prophétie remaniée, comme je l'ai dit au cours des années, il y aurait plusieurs aspects à considérer. Pour conclure, je me limite à en souligner deux. Avant tout, la réversibilité potentielle des figures messianiques, comme celle du sultan, qui dans cette trame digne d'une série télévisée, évolue beaucoup. Ensuite, les messies cachés, qui soudainement, au moment le plus difficile, sauvent la ville et la chrétienté entière. Cette option messianique au XVIe siècle sera au cœur des attentes de la communauté d'artisans disciples de Benedetto Corazzaro, à Venise, la communauté condamnée par l'Inquisition, et le processus a été étudié par Carlo Ginzburg et après par Ottavia Niccoli. C'est une option bien différente de celle civique commune, l'on a vu à Florence. Mais on se tromperait si l'on appelait tout court option vénitienne. Comme l'on a vu hier, la typologie ne marche pas toujours en histoire. Au milieu du XVIe siècle, avec Jacopo Broccardo et Guillaume Postel, et même au XVIIe siècle, dans l'œuvre de Jan Comenius, Venise, en tant que ville, la Venise triomphante, sera considérée la ville de Dieu, lieu de l'imminent retour du Christ. Dans les mêmes années, Cosme de Médicis écrasait les derniers disciples de Savonarole. La nouvelle Jérusalem, annoncée par les prophètes dominicains, était devenue désormais impossible à réaliser et même à penser en Toscane. Merci de votre attention.